Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Micro Rebelle Hebdo, l'émission de notre radio, écoutable sur micro-rebelle.fr et rediffusée par nos amis de Radio PFM 99.9 à Arras, le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30, le dimanche à 14h. Nous les remercions de ce partenariat. Alors comme chaque vendredi, comme chaque week-end, au programme de ce micro-rebelle hebdo, l'agenda, les actualités au travers de la revue de presse, de la musique, musique libre, et puis des reportages. Hein, on en reparlera tout à l'heure. Reportage sur le conflit social en cours contre la réforme des retraites. Et reportage également concernant une initiative de micro-rebelle la semaine dernière, à un mois des élections municipales. Je suis avec Luc à la technique. Bonjour Luc.
Salut à toutes et à tous.
Et avec Aurélie. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Et il est possible que notre ami Jonathan nous rejoigne en cours d'émission. On lui donnera la parole le cas échéant. Alors on va sans tarder partir sur notre agenda. Donc on est à la veille des vacances de février et notre agenda est relativement réduit. Mais on a quand même deux annonces à vous faire. Le samedi 15 février, c'est Aurélie qui commence.
Donc on se retrouve le samedi 15 février pour une rencontre avec Maboula Soumaoro, autrice du livre Le Triangle et l'Hexagone, aux éditions La Découverte, co-organisée par l'atelier d'histoire critique et Survie Nord. Le Triangle et l'Hexagone est un ouvrage hybride, le récit autobiographique d'une chercheuse. À travers une écriture lumineuse, Maboula Soumaoro pose son regard sur sa vie, ses pérégrinations transatlantiques entre la Côte d'Ivoire des origines, la France et les États-Unis, et ses expériences les plus révélatrices afin de réfléchir à son identité de femme noire en ce début du XXIe siècle. Ce parcours quelque peu atypique se déploie également dans la narration d'une transfuge de classe, le récit d'une ascension sociale juchée d'embûches et d'obstacles à surmonter au sein de l'université. Cette expérience individuelle fait écho à l'expérience collective en mettant en lumière la banalité du racisme d'aujourd'hui en France. Dans les domaines personnels, professionnels, intellectuels et médiatiques, la violence surgit à chaque étape, elle est parfois explicite, d'autres fois elle se fait plus insidieuse. Alors comment la dire? Comment se dire? Maboula Soumaoro est docteur en civilisation du monde anglophone et spécialiste en études africaines-américaines et de la diaspora noire africaine. Elle est maîtresse de conférences à l'université de Tours et présidente de l'association Black History Month, dédiée à la célébration de l'histoire et des cultures noires. Et ça se passera au café coopératif Les Sarrasins, 52-54 rue des Sarrasins, le samedi 15 février à 15h.
Alors c'est le même jour, hein, c'est presque à la même heure, donc samedi 15 février, mais à 16h. C'est aussi dans un café, c'est au café cantine La Moulinette, 105 boulevard Victor Hugo à Lille-Moulin. Donc c'est un café qui vient d'ouvrir il y a quelques mois à Lille-Moulin. Et l'initiative, c'est autour du café Zapatiste. L'association Souscripteurs sans frontières vous propose de contribuer à l'action d'échange solidaire par une souscription de café en grains, moulu, expresso. On passe commande directement aux producteurs du Chiapas qui sont ainsi rémunérés au prix du marché bio équitable. Comme tout ça se passe sans aucun intermédiaire commercial, les surplus sont reversés à des caracoles. Ce sont des coopératives autogérées qui viennent en aide aux populations. En effet, le gouvernement mexicain prive les paysans des services publics de base, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures, pour les punir de leur soutien à la lutte zapatiste pour un monde sans propriétaires et sans capitalistes. C'est donc une façon de soutenir la lutte. Donc rappel, souscription de café zapatiste, c'est au café cantine La Moulinette, 105 boulevard Victor Hugo à Lille-Moulin, ce samedi 15 février à 16h. On va enchaîner sur notre rubrique actualité Alors l'actualité sociale, bien sûr, c'est la poursuite de la mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Alors je ne vais pas développer davantage, puisque dans quelques instants, nous écouterons un reportage concernant une des nombreuses actions qui se poursuivent contre cette réforme. Alors je vais plutôt évoquer, au travers d'un article de presse, le rôle que peuvent avoir des élus locaux pour la défense des intérêts des habitantes et habitants. Alors ça tombe bien, on est tout juste à un mois des élections municipales, et ça n'est pas inintéressant d'aborder cette question. C'est donc un article de l'Avenir de l'Artois cette semaine, avec ce titre « La SNCF cède face au blocage de la gare ». Alors il s'agit de trois villes, trois municipalités communistes, Avion, Méricourt et Salomine, qui ont chacune une gare TER sur leur territoire, une gare promise à l'abandon, puisque la SNCF avait décidé de supprimer les arrêts dans ces gares. La gare d'Avion est sur la ligne Arras-Lens et les gares de Méricourt et Salomine sont sur la ligne Lille-Lens. Ce sont donc des arrêts utilisés par des personnes de chaque ville qui vont travailler ou étudier à Arras ou à Lille. L'Avenir de l'Artois rappelle le contexte. Je cite « Décembre, la SNCF annonce la suspension de nombreux arrêts dans les gares d'Avion, de Méricourt et de Salomine. Immédiatement, les trois maires, respectivement Jean-Marc Tellier, Bernard Baude et Christian Pedowski, s'étaient placés contre cette décision. À la suite, la SNCF avait annoncé une nouvelle réunion avec les trois élus fin janvier, après avoir étudié leurs propositions. Le 31 janvier, poursuit le journal, donc un mois après, le résultat de la réunion entre les quatre parties est très mauvais pour les communes. Jean-Marc Tellier annonce même « une déception, la SNCF ne nous a pas écoutés ». Fin de citation. C'est donc dans ce contexte que ces trois maires ont engagé une mobilisation avec évidemment les usagères et usagers du TER habitant leur ville. On continue à citer l'Avenir de l'Artois. Jean-Marc Tellier, maire d'Avion, l'avait annoncé lundi 3 février. Désormais, nous allons passer à l'action. Jeudi 6 février, maires, élus et habitants ont investi la gare d'Avion pour réclamer un entretien avec les responsables de la SNCF. Un blocage de la gare en bonne et due forme. 2h30 plus tard, la mobilisation portait ses fruits. Résultat pour la gare d'Avion, dans le sens Avion vers Arras, 4 arrêts par jour en semaine. Idem pour le sens Arras vers Avion. Pour la gare de Salomine, tous les arrêts ont été rétablis et d'autres vont être mis en place avec l'arrêt systématique de l'ensemble des TER. De la liaison Lens-Lille via Dont-Saint-Guin, le samedi et le dimanche, avec 4 allers-retours le samedi et 3 le dimanche. Ces arrêts seront mis en place à partir de lundi 6 avril. Alors bien sûr, il est évident que cette victoire, on la doit avant tout aux personnes qui ont assuré ce blocage. Autrement dit, rien n'aurait été possible sans une forte mobilisation des habitantes et habitants. Mais il nous a semblé important de relever le rôle qu'ont eu les élus, et en particulier les maires d'Avion, Méricourt et Salomine, en s'engageant clairement dans cette action pour la défense des intérêts de leurs administrés. Poursuite de l'actualité au travers de la revue de presse, c'est Aurélie qui vous propose une nouvelle approche, un nouvel article.
Merci. La planification écologique, un grand mot auquel nous devrions tous penser. Dans Poétis cette semaine, un article a mis en avant l'idée selon laquelle il y a un quasi-consensus pour considérer que la transition vers une société décarbonée est un objectif majeur en ce début du XXIe siècle. Pourtant, on ne sait pas quels sont les moyens qui vont être utilisés pour y parvenir. L'auteur de l'article met en lumière un fait important. La transition écologique est une incertitude. Au final, nous n'avons aucune idée de la manière dont la politique publique future fonctionnera. C'est ce que les écologistes appellent le risque de transition. On remarque que les entreprises ont du mal à se tourner vers une véritable transition écologique, sans parler du greenwashing dont ils font usage. Vraiment se lancer dans une transition écologique semble être une décision difficile à prendre, dans une ère où très peu l'ont déjà fait. Politiquement, il incombe aux responsables politiques de présenter la transition écologique, et non plus seulement de se contenter d'un on verra bien. Parce que à ce rythme-là, chers auditeurs, nous ne verrons rien du tout. Dans un système comme le nôtre capitaliste, seul le rendement compte. Or, si on ne force pas les grandes entreprises multinationales à s'impliquer vraiment dans la transition écologique, le mouvement ne sera, pour ainsi dire, jamais lancé. Et puis, n'avez-vous jamais remarqué que ce sont toujours les citoyens qui payent le prix fort de la transition écologique ? Les multinationales, elles, ne doivent rien changer. Surproduction ? Ok. Profit et toujours profit ? Toujours ok. Mais par contre, le petit citoyen qui n'a pas les moyens du multinational, lui, il est forcé d'adapter son mode de vie, rien que par la nécessité des fameuses vignettes dans les grandes villes, comme Paris ou Lille, pour n'en citer que deux. Alors oui, il est certainement plus simple de prendre des mesures dites écologiques alors qu'elles ne le sont pas vraiment. Reprocher à la population de rouler avec une voiture diesel, mais ne pas réprimander les gigantesques paquebots qui sont les plus gros pollueurs, c'est normal. Le système est tel que rien n'est imposé à ceux qui pourraient vraiment changer les choses, c'est vrai. Réfléchissons-y. Si les grands industriels arrêtaient de fabriquer des grosses voitures très polluantes, plus personne n'en achèterait au final. Mais tout semble toujours revenir sur le dos du consommateur. S'il y a une surproduction, de la pollution, c'est de la faute à celui qui consomme et pas de la faute de celui qui produit. Mais à qui la faute vraisemblablement ?
Alors donc on vient de parler de transition. Ben nous on va se contenter d'une transition musicale, Luc.
Transition musicale, et pour une fois, avant de lancer la musique, j'ai envie de parler très brièvement d'un label que j'ai découvert tout à l'heure, et ça m'a semblé bien intéressant. Ça s'appelle Waruba, avec deux O, et en fait c'est l'acronyme, donc là c'est de l'anglais, hein. We are our own best advocate. Et ils se présentent, je lis ce qui est écrit sur leur site, ils sont nés d'une envie pressante de perpétuer leur esprit mutuel d'indépendance. Maruba accompagnera les artistes et groupes de sa fédération dans leur démarche d'autoproduction et de self-management. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Label hybride auto-engendré sur les braises d'un communautarisme globalisé, Waruba est un ralliement de mélomanes et autres artophiles curieux, tous rigoureusement ouverts et déterminés à faire s'entrechoquer leurs univers respectifs. Bon, l'important, c'est la musique, et pour le coup, c'est pas mal, il y a des... pas mal de rap, un peu de dub, et puis aussi un peu de rock, mais pour le coup, ce sera rap avec Cerber et Makawa, en featuring avec L'Horlogerie. Et le titre que je propose, c'est « Va te trouver un job », devinez à qui ça s'adresse.
D'être un petit voleur et détrousser les pauvres gens, apprendre les affaiblis pour cible, en faire des indigents, à te laisser pousser le bide, assis au Sénat, et ne rendant des comptes qu'à ceux qui t'ont placé là. Tu perds ton temps entre deux ronflements à squatter Facebook ou Twitter, affalé au Parlement. Ça fait combien de temps que t'es pas sorti sans tes gorilles? Combien de temps que tu fais la sourde oreille alors qu'on s'égosille? T'as passé l'âge de jouer à Tom et Jerry avec la justice, j'crois que t'as fait ton temps, le public te fustige. Ta tête peut sauter demain, c'est la loterie. On peut t'afficher comme le FMI et ses petites sauteries. Par intérêt toujours, mais je t'apprends rien. Dans ton crew, ça braque des pays. Vous êtes les boss de l'arnaque, et regarde-toi, t'as l'air de rien, je te fais pas la morale. Et c'est pas que je t'aime bien, mais v'là un conseil amical. Va te trouver un job, putain. Un truc à faire pour t'occuper les mains, je sais pas, mais va te trouver un job, putain. Si tu restes là planté, tu risques d'en énerver plus d'un. Va te trouver un job, putain. Un truc à faire pour t'occuper les mains, je sais pas, mais va te trouver un job, putain. Si tu restes là planté, tu risques d'en énerver plus d'un. Et toi qui te couvres de ridicule à la téloche, plus c'est débile, plus ça passe, putain c'est moche. Et pire c'est que ça marche, ça gratte des parts de marché, lavement de cerveau avant que la pub ne vienne démarcher. T'en vaut même pas la peine, j'citerai pas ton prénom, j'vais te laisser ce que tu sais faire. L'humiliation c'est pas mon credo. C'est ça le showbiz, la célébrité, des quarantenaires qui jouent les caricatures d'ados décérébrés. Et tu veux me faire croire que l'espèce évolue, quand j'pense aux concepteurs du pas, c'est sur ces merdes qui jettent leur dévolu. Nichon, pipi, caca, toi ça te fait gollerie, serait grand temps de tourner la j'ai d'arrêter tes conneries. Je te parle peut-être comme un gosse, mais tu l'as bien cherché. Tu pourris la tronche de nos mioches, ça finit par me faire chier. Cherche même pas à répondre ou je pourrais me fâcher. Allez, file, fais-moi de l'air, commence par ranger ta chambre. Va te trouver un job, putain. Un truc à faire
pour t'occuper les mains, je sais pas mais va te trouver un job putain. Si tu restes là planté, tu risques d'en énerver plus d'un. Va te trouver un job putain, un truc à faire pour t'occuper les mains, je sais pas mais va te trouver un job putain. Si tu restes là planté, tu risques d'en énerver plus d'un. Derrière ta caméra, tu crois que je t'ai pas grillé, à faire flipper les foules avec ta propagande de négrier. Dans l'unique but de Bigraph des scoops, ça se prétend journaliste mais tu l'es tout autant que moi je suis boy scout. Ça monte des scénars à la Polar, d'Audiard avec comme matière première trois pauvres neugeux sur un scout. Soyons sérieux, tu crois qu'on est dupes? Va faire gober ta pastille à d'autres cus avant qu'on t'éduque. Si je t'écoutais, je sortirais même plus de chez moi. Je vivrais sûrement isolé dans un bunker caché sous terre. T'analyses que dalle et tu fais feu de tout bois. Je pige pas que t'es pas senti qu'il était temps de se taire. Tu la ramènes uniquement pour foutre le feu aux poudres. Faudrait quoi marcher masqué pour ne pas s'attirer des foudres. Maintenant fous le camp. T'as causé assez de tort à diviser les gens alors que dehors c'est déjà le Delport. Allez, va te trouver un job putain, un truc à faire pour t'occuper les mains, je sais pas mais va te trouver un job putain. Si tu restes là planté, tu risques d'en énerver plus d'un. Va te trouver un job putain, un truc à faire pour t'occuper les mains, je sais pas mais va te trouver un job putain. Si tu restes là planté, tu risques d'en énerver plus d'un.
Cerber et Makawa du label Waruba. Je précise, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que c'est un label qui propose toutes les musiques et tous les albums de tous ces artistes libres de droit. Vous trouverez ça sur Bandcamp ou sur waruba.fr.
Très bien, bien merci pour cette musique libre, Luc. Je vous l'avais annoncé, notre ami Jonathan était en route et il vient d'arriver en studio. Bonjour Jonathan.
Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure qu'on écoute l'émission.
Oui, effectivement. Alors bon, c'est peut-être l'occasion de voir avec toi. Tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'on allait aborder un certain nombre d'aspects des conflits sociaux en cours. Alors toi, tu es étudiant à Lille 2. Comment ça se passe là-bas ?
Ben alors du coup, comme je l'avais dit en hors antenne, les professeurs de sciences politiques et d'enjeux sociaux qui étaient vraiment mobilisés pour le mouvement contre la réforme des retraites ont repris les cours, mais d'une façon différente. Alors du coup, ils arrêtent de faire le programme. Alors j'explique, en CM, du coup, en cours magistraux, on a une heure et demie de visionnage d'un documentaire et l'heure et demie suivante, on fait un débat. Et les partiels sera uniquement sur ça. Donc du coup, je suis super content. Et pour au niveau des TD, étant donné que les TD ne suivent plus avec les CM, on a tous, du moins à Lille 2, 15 sur 20 sans travailler. Donc du coup, moi je dis, vive la grève.
Alors vive la grève, effectivement, pour le 15 comme note, mais vive la grève aussi pour la lutte, finalement.
Ah oui, ça avant tout. Mais je suis quand même content du 15, je ne le cache pas.
Alors il y a Lille 3.
Alors à Lille 3, bon, je suis pas là-bas en tant qu'étudiant, mais bon, je vais souvent voir Aurélie, mon amie, là-bas. Et à l'entrée, on a souvent des étudiants justement qui distribuent des tracts avec souvent deux dates différentes. La première date, c'est une AG entre étudiants pour parler justement de la réforme des retraites et souvent une autre date pour des manifestations.
Et alors, tu m'avais évoqué aussi une garde à vue cette semaine ?
Oui, donc du coup, je n'ai pas vraiment les noms, parce qu'avant, sur l'île 2, il devait y avoir une conférence de M. Hollande à l'île 2, sauf qu'il y avait des étudiants qui sont rentrés un petit peu de force dans la conférence, qui est tout simplement annulée, et ils ont déchiré tous les livres de François Hollande, du coup, dans l'amphi. Et d'après ce que j'ai entendu, les échos, c'était hier, il y a eu une brève garde à vue d'une chercheuse à Lille, dont je n'ai pas le nom, malheureusement.
Très bien, bien, merci Jonathan. On va essayer de suivre ça de plus en plus près, hein, puisque notamment on a maintenant de nouveaux contacts au niveau du corps enseignant qui se mobilise à Lille. Et je pense qu'on aura l'occasion très prochainement de fouiller un peu cette question. Alors on va continuer cette investigation concernant les conflits sociaux en cours, hein, contre la réforme des retraites. Un reportage de Luc.
Oui, depuis 6 semaines, les avocats et avocates sont en grève et multiplient les actions pour protester contre la réforme des retraites. Ce vendredi ont eu lieu 2 actions, une récolte de denrées alimentaires et un don de fleurs aux magistrats et greffières. Pour parler de ce mécontentement et de la mobilisation, nous avons rencontré Édouard Dubout, avocat et président de la section du syndicat des avocats de Béthune, de France, pardon, syndicat des avocats de France au barreau de Béthune. Ce vendredi 14 février, les avocats du barreau de Béthune ont mené une action caritative à la maison de l'avocat. En grève depuis le 6 janvier pour protester contre la réforme des retraites, ils multiplient les actions symboliques pour manifester leur mécontentement, mais aussi leur solidarité. Ce vendredi matin, ils ont donc collecté des denrées alimentaires au profit des Restos du Cœur pour montrer leur solidarité avec les plus démunis. Ils ont ensuite, Saint-Valentin oblige, distribué des roses aux greffiers et magistrats directement impactés par leurs actions pour montrer cette fois que leur grève ne les visait pas. En Assemblée Générale, ils ont ensuite voté la poursuite du mouvement. Nous avons rencontré Édouard Duboux, avocat, président de la section du syndicat de France rattaché au barreau de Béthune. Il nous explique cette mobilisation extraordinaire des avocats en France.
Alors la grève, la chronologie, en fait ça fait longtemps que c'est latent. Depuis le début de l'année, on a eu des actions au niveau national au sujet de la réforme des retraites, essentiellement. C'est là-dessus qu'en tout cas les avocats se sont mobilisés pour l'instant. Ça faisait suite à d'autres mobilisations qui réagissaient aux réformes judiciaires qu'on a eues depuis la mandature Macron, qui sont toutes très insatisfaisantes, mais en tout cas là actuellement c'est sur la réforme des retraites qu'on est mobilisé.
Depuis quand, combien de personnes, quel pourcentage de grévistes chez les avocats? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus sur l'importance de la mobilisation chez les avocats?
Alors en tout cas c'est une mobilisation qui est exceptionnelle. Moi alors je suis avocat depuis 10 ans, il y a des choses que j'ai jamais vues. Les avocats qui sont plus anciens que moi disent aussi qu'ils ont jamais vu ça. C'est la première fois qu'on est en grève depuis 6 semaines. Les plus fortes mobilisations ont duré au maximum une semaine voire 2 semaines. 6 semaines c'est totalement inédit, c'est la première fois. C'est la première fois aussi que l'intégralité des barreaux de France ont été en grève. Alors le droit de grève est un droit individuel, hein, et il y a des avocats qui continuent de travailler, mais en réalité l'intégralité des barreaux de France ont été en grève au début. Là, on est dans un taux de mobilisation qui est de l'ordre de 70% des barreaux, avec protestation plus ou moins virulente, grève totale, grève partielle, grève du zèle, grève perlée. Mais en tout cas, c'est une mobilisation qui est absolument exceptionnelle. C'est par exemple la première fois que le barreau de Paris se réunit en Assemblée Générale depuis 1990, date de la fusion des professions conseil juridique et avocat. Et on n'a jamais vu une telle mobilisation depuis 30 ans.
Qu'est-ce qui cristallise le mécontentement ?
Alors ce qui cristallise le mécontentement, c'est en réalité un miroir avec le reste. Hein. On a une réforme qui tente à absorber la caisse autonome des avocats, qui est une caisse de retraite qui fonctionne très bien, mais sous des faux prétextes, avec des textes qui sont absolument illisibles. Là, le texte sur la réforme des retraites a été invalidé, si on peut dire ça, puisqu'en réalité c'est qu'un avis consultatif par le Conseil d'État, puisqu'il est illisible. On nous prévoit le recours à une vingtaine d'ordonnances pour venir mettre en application le texte, ce qui fait qu'actuellement on peut pas savoir de quoi il s'agit. Ils font référence à des indices pour nous dire voilà comment ça va se passer. Les indices n'existent même pas. Donc sur la méthode, c'est absolument illisible, c'est truffé de mensonges. L'étude de cas qu'ils ont bien voulu faire est un mensonge de bout en bout. Hein. On a 1000 pages qui ont été données aux parlementaires qui ne correspond à aucune réalité. Cette étude de cas, elle est fausse. Et on nous vend toujours des faux prétextes, c'est-à-dire qu'on nous dit « mais soyez solidaires, c'est un régime universel ». On sait parfaitement que l'universalité, elle a sauté depuis bien longtemps, puisque des concessions ont été faites. On sait que c'est un régime qui, en réalité, est profondément injuste, puisque, en réalité, c'est ceux qui gagnent le plus qui vont cotiser le moins. Et ils font croire que les avocats veulent pas discuter parce qu'ils veulent absolument conserver leurs petits privilèges, ce qui est absolument faux, puisque la caisse des retraites des avocats verse actuellement 100 millions d'euros par an au régime général, ce qui ne pourrait nécessairement plus être le cas si la caisse est supprimée. Alors ils nous disent, vous allez conserver votre caisse, mais on va l'absorber progressivement. En réalité, ce serait une coquille vide. Sur la méthode, sur les mensonges, sur la réalité des motivations, ça cristallise forcément tout le monde. Ça ça inquiète beaucoup les avocats parce que ça va faire exploser les taux de cotisation. Mais au-delà de ça, ce qui est absolument scandaleux, c'est qu'on a une mauvaise foi qui est évidente, puisqu'on sait en réalité qu'il ne s'agit absolument pas d'une mesure sociale et d'une mesure solidaire qui est faite par le gouvernement Macron. Ce serait d'ailleurs déjà étonnant en réalité. Mais en réalité, on sait très bien qu'il s'agit de vider le système de retraite étatique de sa substance et de laisser libre champ aux assureurs qui, derrière, se feront un plaisir de pouvoir assurer les plus riches et leur proposer des systèmes de protection et de prévoyance plus avantageux. Moi, à titre personnel, c'est ce qui me choque particulièrement. Là, actuellement, le barreau de Paris a, en Assemblée Générale, demandé que soit interrogé le gouvernement sur les liens qu'ils peuvent avoir avec les différents lobbies assurantiels.
Et alors, quel impact la grève des avocats sous ses diverses formes a sur les activités judiciaires actuellement ?
Alors actuellement, on plaide pas les dossiers, ou très peu. Ça bloque totalement l'activité juridictionnelle, ce qui fait qu'on a, je crois, alors je vais pas les derniers chiffres en tête, hein, mais il y a trois semaines, on nous parlait de 250 dossiers renvoyés en matière pénale simplement au niveau de Béthune. On peut s'imaginer que ça se compte en centaines de milliers en réalité au niveau de la France. C'est des délais qui explosent totalement puisque les dossiers sont renvoyés à septembre, juillet, enfin à des dates extrêmement lointaines. Les magistrats nous disent là on est en train de vivre un semestre mort et on va prendre un retard phénoménal. Après malheureusement aussi ça fait exploser la charge de travail du personnel judiciaire. Nous c'est pas du tout ce qu'on souhaite, hein, bloquer en réalité les fonctionnaires qui seront tout aussi impactés par la réforme des retraites, mais malheureusement là actuellement ils ont une charge de travail qui explose totalement. Les barreaux, d'ailleurs, proposent de mettre en place des groupes de travail pour permettre aux greffiers, notamment, de pouvoir réclamer à l'État leurs heures supplémentaires provoquées par la réforme des retraites. En tout cas, par la mobilisation qui y a trait.
Et alors, comment ça s'organise au sein de la corporation des avocats? Comment ça s'organise peut-être avec les différents syndicats ou les gens qui ne sont pas syndiqués? Est-ce qu'il y a des réunions, des assemblées générales, des concertations, ce genre de choses?
Alors s'agissant de Béthune, on se réunit en assemblée générale toutes les semaines pour décider de la poursuite ou non du mouvement, parce que le mouvement il a aussi un impact monstrueux sur les avocats. Actuellement on travaille pas, donc nous on est entre guillemets des chefs d'entreprise. On voit toujours les grévistes comme des saboteurs de travail, mais là c'est nous qu'on sabote, hein, donc si on s'amuse à le faire, c'est que on considère que c'est grave. Donc on se réunit pour que ce soit concerté en assemblée générale toutes les semaines à Béthune pour savoir si on prolonge ou pas la grève. Dans le cadre de ces assemblées générales, on décide du mode d'action, des différentes actions à mener. On essaye de mettre en place des actions solidaires, des actions qui peuvent faire bouger le gouvernement, puisque l'objectif c'est ça, c'est de les obliger à bouger, à tout le moins d'ouvrir des discussions, puisqu'ils font croire qu'on refuse les discussions. En réalité, on se retrouve toujours face à des portes fermées. Mais il faut que les discussions prennent. Donc les actions, elles tendent à obliger le gouvernement à réagir. Mais ces actions-là, elles sont discutées systématiquement en Assemblée Générale. En tout cas, je parle du barreau de Béthune. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas.
Justement, est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour d'éventuelles discussions?
Alors vous savez, moi je suis un avocat de campagne. Hein. Je ne suis pas invité aux négociations. J'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. On a des rencontres qui ont lieu entre nos représentants nationaux et le gouvernement assez régulièrement. La dernière en date, me semble-t-il, était le 4 février. En réalité, ça provoque systématiquement des retours qui sont extrêmement négatifs de la part de nos représentants, où on nous explique qu'on n'est absolument pas écouté. Et dans ma logique d'individu et d'avocat de campagne, moi j'écoute ce que je peux récupérer comme information, et quand j'entends les propos qui sont tenus par Nicole Belloubet ou Sibeth Ndiaye qui sont absolument scandaleux, j'ai pas l'impression que la discussion s'ouvre véritablement, j'ai plus l'impression qu'on nous insulte. C'est d'ailleurs ce qui provoque les réaction et la continuation de la grève aujourd'hui, puisque clairement le mouvement est difficile à tenir. Mais les représentants de La République En Marche font des déclarations qui sont tellement insultantes que systématiquement, ils arrivent à remobiliser les avocats. Je ne sais pas si c'est un jeu de pourrissement qui est joué, mais en tout cas, l'effet est assez impressionnant.
Ça a été brièvement dit tout à l'heure, on s'imagine que l'image véhiculée de la grève des avocats, c'est une mobilisation corporatiste. Comment se tissent des liens entre la mobilisation des avocats et celle plus large des fonctionnaires, des employés du service public, des employés du privé?
Je vous avoue que je me refuse à manger ce que me propose BFM. Alors j'imagine bien qu'ils présentent la réforme comme, enfin, la grève comme un mouvement corporatiste. Honnêtement, j'ai pas de vraie lisibilité sur ce que les médias en pensent. Moi, j'ai l'impression que sur les médias indépendants, je regarde pas mal Mediapart, j'ai pas l'impression qu'on donne l'image d'une corporation qui ne s'attache qu'à ses privilèges. On a les avocats, une possibilité d'action qui est un peu différente de celle d'autres professions qui peuvent nous ressembler dans le fonctionnement. Je pense aux professions médicales. Je fréquente des kinésithérapeutes qui me disent « mais moi si je fais grève, enfin ça sert à rien, c'est juste je prive les gens de soins, mais j'ai aucune capacité de blocage ». Ce qui est un peu désespérant, c'est qu'on a véritablement l'impression que pour protester, faire entendre sa voix, il faut être en mesure de bloquer. Et nécessairement, les autres professions ont pas forcément la même que la nôtre. Hein. Les gens du transport arrivent à impacter et à se faire écouter. Les avocats peuvent bloquer un peu les fonctionnements du ministère de la Justice. Les autres professions, elles sont un peu coincées par rapport à cela. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que la parole suffise, que notre démocratie va bien. Et donc, du coup, ça limite forcément les modes d'action des autres professions. Mais néanmoins, il y a des collectif SOS Retraite qui se crée, il y a des ponts entre les différentes professions. On a reçu encore ce matin des lettres de soutien du syndicat CGT, des fonctionnaires de la chancellerie et des services judiciaires. Il y a une véritable interprofessionnelle qui existe en réalité.
Par le fait qu'au sein d'un tribunal, il y ait différents métiers, différents services, différents statuts?
Bah, même pas au sein du tribunal. Finalement, on est assez surpris de la réaction des juges, des greffiers. Hein. Pas qu'on ait eu des mauvais a priori sur eux, mais on sait bien qu'on les empêche de travailler. Et puis finalement, on se rend compte qu'ils comprennent très bien le mouvement, qu'ils sont parfaitement sensibles à nos revendications. Alors, ce qui nous aide, c'est que depuis maintenant quelques mois, on reçoit des lois, des décrets qui sont, pour reprendre des expressions qui étaient largement employées, écrits avec les pieds. Enfin, on a des réformes qui sont inapplicables tant elles sont mal écrites. On a un amateurisme au niveau de la rédaction des lois actuellement qui est absolument inédit. Et du coup, tout le monde est sensible au pourrissement de l'état législatif, de la qualité des lois, et du coup ça aide forcément à ce que le mouvement soit compris ou alors au pire toléré par les différents professionnels qu'on peut rencontrer.
Quelle pourrait être la suite? Bon, là on est plutôt dans la prospective, mais imaginons que les avocates obtiennent gain de cause, est-ce qu'ils pourraient continuer le mouvement de grève pour certains en solidarité avec le reste de la mobilisation?
Alors honnêtement, moi j'aimerais beaucoup vous dire bien sûr que les avocats seront solidaires. L'effort qui est réalisé actuellement par les avocats, il est absolument extraordinaire. Et je crois pas qu'ils puissent ensuite continuer le mouvement s'ils ont gain de cause. Honnêtement, j'ai peu d'espoir sur le fait que les avocats aient gain de cause. Il faut savoir qu'il y a d'autres réformes qui vont emboîter celle des retraites, qui va provoquer aussi des mobilisations très importantes des avocats. Donc peut-être que si gain de cause est obtenu, une pause sera faite pour qu'on puisse réembrayer sur les différentes réformes qui pourront nous être proposées si le gouvernement Macron ne change pas de méthode dans ce qu'il nous propose.
Et donc ce serait au sujet de quelle réforme?
Il y a la réforme de l'aide juridictionnelle qui arrive, qui, on le sait, dans les tuyaux, c'est la réforme qui inquiète le plus les avocats. On a eu là actuellement une loi, la loi qu'ils appellent ASAP, hein, puisqu'on est dans une legal tech étatique, donc on parle en texto, une loi ASAP dans laquelle ils voulaient que les assurances, tiens encore, puissent avoir un droit de regard sur les conventions d'honoraires des avocats. Ça s'inscrit encore une fois dans une privatisation de la, du financement de la justice. Et ça, on sait que c'est une réforme qui va faire beaucoup réagir.
C'était Édouard Dubout, avocat et président de section du syndicat des avocats de France au barreau de Béthune, au sujet de la mobilisation contre la réforme des retraites, vous l'aurez compris.
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
On va faire une seconde pause musicale, toujours avec le label Waruba, un autre groupe, Massive Dub Corporation. C'est un mélange de dub et de jazz. Le titre qu'on propose, c'est Time Collapse.
Toujours sur micro-rebelle.fr et en rediffusion sur Radio PFM 99.9 pour ce micro-rebelle hebdo. On va terminer cette émission par un reportage, un entretien, une émission publique que micro-rebelle a réalisée la semaine dernière avec Hugo Paglietta. On est à un mois des élections municipales. Dans le bassin minier, l'extrême droite est très présente. Et donc nous avons souhaité à Micro Rebelle avoir cet échange avec Hugo Paglietta, qui est sociologue, enseignant à l'Université de Lille et surtout qui vient d'écrire ce livre « La possibilité du fascisme ». Toute cette émission est disponible sur micro-rebelle.fr. Donc c'est une émission publique, hein, je l'ai dit, en deux parties. La première partie, c'est un échange, hein, avec Hugo Paglietta. Et la seconde partie, ce sont des questions-réponses, hein, des échanges avec les participantes et participants à cette émission publique. On vous propose aujourd'hui donc un court extrait, hein, il y a une quinzaine de minutes, un court extrait. C'est le début de l'entretien avec Hugo Paglietta, dans lequel il revient sur ce qu'est le fascisme, sur l'extrême droite, d'une manière générale. On l'écoute tout de suite.
Bienvenue pour cette émission publique, donc avec Hugo Paglietta, autour de son dernier ouvrage « La possibilité du fascisme », sous-titré « France, la trajectoire du désastre » est paru en 2018 aux éditions La Découverte. Nous sommes ici à la Maison des Jeunes Buissons à Lens, dans laquelle Micro Rebelle est installée depuis 2019, et on est heureux de pouvoir y organiser ce genre de rencontre, débat radiophonique. La possibilité du fascisme, c'est effectivement la diffusion massive de thèses xénophobes ou islamophobes, c'est la violence de l'appareil répressif, c'est l'autoritarisme des élites, c'est la criminalisation des mouvements sociaux, c'est dans ce contexte de crise politique que le fascisme devient possible. C'est aussi pour nous, localement, la possibilité de voir un parti néofasciste gagner du terrain, s'emparer des institutions locales. C'est dans ce contexte d'élections municipales et parce que nous mesurons la menace que nous avons souhaité réaliser cette émission à ce moment. Hugo, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
De manière à introduire la discussion, est-ce que tu peux nous donner la définition du fascisme que tu développes et défends dans ce livre ?
Alors effectivement, je précise tout de suite, c'est une définition que je donne, mais qui n'est pas une définition consensuelle nécessairement, puisque c'est l'objet d'énormément de débats, notamment parmi les historiens et les historiennes. Hein, la question de c'est quoi le fascisme, ça a fait couler énormément d'encre. Il y a peu de questions d'ailleurs dans les sciences sociales et qui a fait couler autant d'encre depuis l'apparition du phénomène fasciste dans les années 20. Moi, la manière dont je définis le fascisme, c'est d'abord à partir de son projet politique. Je pense qu'il y a deux obstacles souvent à la définition du fascisme, dans la pensée commune qu'on en a. C'est un, quand on se focalise sur les aspects les plus extérieurs du fascisme, la stylistique fasciste, le style fasciste en quelque sorte, des gens qui, en masse, disons, mettent des chemises brunes, des chemises noires, et qui défilent dans des rues, et qui vont violenter des gens, etc. Bon, ça, c'est, je dirais, l'aspect le plus extérieur du fascisme, et c'est une idée un peu rassurante, parce qu'on peut très bien se dire, aujourd'hui, bon, on n'a pas ça en France, en tout cas, à une échelle de masse, quoi, comme dans l'entre-deux-guerres, et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de fascistes, il n'y a pas de danger fasciste, etc., quoi, ou alors groupusculaire, etc. Un autre écueil, c'est souvent de réduire le fascisme à simplement l'exercice de la violence politique. Or, effectivement, les fascistes se caractérisent par un usage intensif de la violence politique, mais ce n'est pas du tout... Le fascisme n'est pas réductible à la violence. D'ailleurs, à peu près tous les courants politiques au 19e et 20e siècle ont pu user de la violence à divers moments. Bon, un bon exemple, c'est le pouvoir bourgeois libéral de Thiers, par exemple, qui a massacré plusieurs dizaines de milliers de communards en 1871. Bon, Thiers n'était pas proprement un fasciste, c'était un libéral en matière économique notamment, et même en matière politique, mais qui n'a pas eu de problème à massacrer plusieurs dizaines de milliers d'insurgés en plein Paris, etc. Bon. Donc, le fascisme ne se réduit pas à des gens, à une espèce de stylistique, à des gens en chemise brune ou chemise noire qui défilent dans les rues, etc., ni à l'exercice de la violence. Donc, je pense qu'il faut revenir pour bien comprendre ce qu'est le fascisme, au type de projet politique qui est le sien. Et du coup, la définition que j'en donne de ce projet, c'est tout simplement l'idée que les fascistes défendent l'idée d'une régénération nationale, en général, d'une régénération nationale par purification. Par purification sur deux plans, ethno-raciale et politique. L'idée derrière étant, pour que la nation renaisse de ses cendres, puisque l'idée des fascistes, c'est toujours que la nation est en déclin, en décomposition, en décadence, et qu'il faut la faire renaître, la régénérer, etc. pour qu'elle se régénère, la nation, pour qu'elle renaisse, pour qu'elle rayonne à nouveau, voire qu'elle domine à nouveau, eh bien, il faut qu'elle se purifie des éléments qui l'empêchent d'être elle-même. Bon, ça, c'est l'aspect purification ethno-raciale. Hein, c'est, il faut se débarrasser la nation de ses ennemis. Alors, les Juifs, hein, dans l'entre-deux-guerres, notamment en Allemagne nazie, aujourd'hui, plutôt, en tout cas en Europe de l'Ouest, les musulmans et les musulmanes, les Roms, les migrants, les migrantes, etc., sont évidemment dans le viseur de toutes les extrêmes droites, parce que derrière, c'est l'idée, si on se débarrasse d'une certaine manière de cette cinquième colonne, de ce parti de l'étranger en quelque sorte, eh bien, la nation pourra à nouveau être elle-même. Bon, elle pourra retrouver son identité profonde, retrouver ses racines. Hein, bon. L'autre plan du projet fasciste de régénération par purification, c'est la purification politique du corps national en quelque sorte. Hein. Dans la vision, dans la conception du monde propre aux fascistes, la nation pour se régénérer doit être en quelque sorte unanime. Il ne doit pas y avoir de division dans la nation. Hein, et donc il faut en quelque sorte se débarrasser, alors de manière plus ou moins violente, et souvent de manière très violente, de tous ceux et toutes celles qui sont perçus comme des facteurs de division de la nation. Donc par exemple, tous les courants qui prônaient d'une manière modérée ou radicale des luttes de classe, hein, des luttes qui avaient la vision qu'il y a dans la société capitaliste des classes qui ont des intérêts contradictoires, antagonistes, ont été la cible de tous les régimes fascistes ou parafascistes, c'est-à-dire proches du fascisme. Et dans tous ces régimes, au bout de quelques mois ou de quelques années, il ne restait rien de la gauche, du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, de toute forme de syndicalisme indépendant de l'État, un tant soit peu, que ce soit sous des formes modérées ou radicales. Bon. Donc voilà, le projet fasciste, c'est un projet, je dirais, si vraiment je devais donner une définition très ramassée, très réduite, c'est un projet de régénération par purification. Voilà, et je pense qu'on le retrouve sous des formes, alors souvent pas dites explicitement, mais quand même qu'on peut facilement détecter quand on lit les discours quand on regarde les discours de meeting, par exemple, par exemple du Front National. En fait, on peut détecter ce type de projet. Par exemple, pour prendre le deuxième aspect de purification politique en quelque sorte, je trouve qu'il y a une déclaration tout à fait récente, très intéressante, du responsable des élections, du responsable national aux élections au niveau du FN, hein, qui à Brest, après un rassemblement de à peu près toute la gauche contre la venue de Marine Le Pen, a dit la chose suivante dans la presse, hein, c'est une déclaration que vous pouvez retrouver facilement. Il a dit aux journalistes, dites aux associations, partis et syndicats de gauche d'aller brûler un cierge, parce que quand nous arriverons au pouvoir, et ça va arriver bientôt, nous les mettrons hors d'état de nuire. Bon, ce qui, je pense qu'en fait, d'une certaine manière, là, il a dû se faire d'ailleurs secouer au niveau national, parce que c'est pas le discours que veut prôner justement Marine Le Pen, qui est un discours de respectabilisation, etc. Mais en fait, là, je pense que le niveau d'autocensure s'est un peu abaissé, il devait être un peu agacé de ce rassemblement antifasciste en plein Brest, etc. Et du coup, il s'est un peu lâché, et du coup, il a d'une certaine manière délivré un peu explicitement ce qui est quand même le fond de l'affaire qui a un trait quand même assez caractéristique et fondamental du fascisme.
Alors ce travail de définition, il est d'autant plus important qu'on ne saurait bien appréhender la menace si elle est mal cernée. Mais aussi parce qu'il y a un véritable flou lié à une confusion des termes. Les partis fascisants sont dits populistes, le néolibéralisme autoritaire est dit fascisant. Pour toi, ces termes sont à bien distinguer. Est-ce que tu peux préciser populisme, fascisme, autoritarisme ?
Alors, oui, c'est un point très important. Alors, sur autoritarisme, il me semble que le fascisme est évidemment un ultra-autoritarisme, si on veut. Au sens où, dans un régime fasciste, il ne reste rien des libertés publiques fondamentales. Alors, on se focalise souvent sur la question de l'élection. En réalité, on peut très bien avoir, même dans les régimes fascistes, des élections. Les élections, ça se truque facilement, pour peu que... dans la dictature salazariste au Portugal, a duré presque 50 ans, et en organisant des élections régulièrement. Simplement, si vous contrôlez qui peut ou non se présenter, par exemple, ce qui était le cas au Portugal, alors, des fois, il lâchait un peu la bride, donc il y avait un candidat opposition vaguement qui avait aucune chance d'être élu, etc. Bon, c'était là encore pour produire l'illusion d'une forme de pluralisme politique, en fait, hein, pour se légitimer. Mais donc, dans le cas du fascisme, il y a un écrasement total de toute forme de contestation, même minimale, de l'ordre social, et donc la liberté publique fondamentale n'existe plus. Bon, la liberté de manifester, de se mettre en grève, etc. On ne peut pas dire que ce soit exactement le cas en France, même si ces libertés sont progressivement rognées. C'est de plus en plus difficile, effectivement, de manifester. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manifester, mais on prend des risques, y compris physiques, du fait de l'intensification de la répression de la part de l'État depuis quelques années. Bon, c'est maintenant quelque chose de tout à fait avéré. C'est pas que des militants d'extrême gauche qui racontent ça. On a vu Jacques Toubon, pas vraiment un militant communiste, ou François Sureau, qui est un avocat qui était proche de Macron et de Fillon, fait un livre pour expliquer que justement la liberté était menacée en France. Bon, là encore, c'est pas vraiment un militant libertaire qui dit ça, quoi. Bon, donc ça montre qu'il y a ce type de processus. Donc je dirais, l'autoritarisme, ce sont des régimes, effectivement, qui peuvent maintenir une façade démocratique, au sens minimal de il y a des élections à peu près dans des conditions à peu près libres, etc. Il y a des libertés publiques, mais elles sont progressivement reniées. Bon, de ce point de vue-là, nous sommes effectivement dans une situation, il me semble, d'autoritarisme aujourd'hui en France. Bon, pas à proprement parler fasciste, parce que les libertés publiques ne sont pas radicalement écrasées comme ils le sont dans une dictature fasciste, mais bon, voilà. Donc je pense qu'il faut faire cette distinction, mais qui ne doit pas nous empêcher de voir que nous ne sommes déjà plus depuis assez longtemps en réalité dans une démocratie libérale comme on pouvait le penser même il y a quelques années. De toute façon, déjà la Ve République en elle-même n'est pas vraiment conforme aux standards, on va dire, de la démocratie libérale. C'est un régime qui donne un pouvoir exorbitant à l'exécutif, au président de la République, qui lui donne d'ailleurs des possibilités de suspendre à peu près quand il l'entend les libertés publiques s'il estime en avoir besoin. Bon, déjà, la Ve République en elle-même n'était pas un régime très conforme à la démocratie libérale. Alors, le gros point, à mon avis, c'est sur le populisme, parce que c'est la principale catégorie intellectuelle qui est utilisé par les journalistes notamment, ou par des intellectuels dominants, pour parler en général de l'extrême droite, mais pas seulement, pour parler aussi de l'extrême gauche ou de la gauche radicale, voire tout simplement de la gauche. C'est-à-dire Corbyn, qui était quand même le dirigeant jusqu'à il y a peu de temps du principal parti de gauche en Grande-Bretagne, de centre-gauche, le Labour Party, pas du tout un radical à proprement parler. Voilà, il était beaucoup plus à gauche que Tony Blair, qui avait la même fonction de chef du Labour il y a une vingtaine d'années, mais c'était un dirigeant de centre-gauche assez traditionnel, en fait, dans son programme. Bon, il a été qualifié de populiste. Bernie Sanders aux États-Unis est qualifié, comme Trump, de populiste. On voit tout de suite le problème, en fait, c'est que la catégorie de populisme, le principal problème qu'elle pose, c'est qu'elle mêle, pour les disqualifier, elle mêle des gens, des partis politiques qui ont des programmes radicalement différents, radicalement antagonistes. Je veux dire, Sanders et Trump, vous pouvez pas faire aux États-Unis plus opposés dans le champ politique. Bon, de la même manière, en France, on le voit bien, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, peu importe les sympathies ou non qu'on peut avoir pour la figure de Jean-Luc Mélenchon ou de la France insoumise, bon, ça n'a absolument rien à voir, que ce soit en termes de programme, de proposition, avec le Front National, même si, évidemment, on peut toujours jouer au jeu de « Ah, il y a ça aussi dans les deux programmes », mais disons, c'est anecdotique par rapport au type de projet qui est porté par les deux forces politiques qui n'ont vraiment rien à voir. Mais on pourrait multiplier les exemples, hein. Bolsonaro au Brésil, cette espèce de clown fasciste qui a été élu depuis il y a à peu près un an, mis dans le même sac que Evo Morales, dans le sac donc des populistes, hein, qu'il s'agit de disqualifier parce qu'ils ne seraient pas conformes à, en gros, la démocratie libérale capitaliste. Bon, parce que c'est ça qui sont, en gros, anti-néolibéraux pour des raisons différentes, alors qu'en fait, par ailleurs, beaucoup de ceux qui sont qualifiés de populistes d'extrême droite sont aussi néolibéraux. Orban, Bolsonaro, Trump sont évidemment néolibéraux au sens où ils veulent notamment rompre avec toutes les conquêtes sociales du XXe siècle. Dans chacun de ces pays. Alors, la catégorie de populisme, elle pose déjà ce premier problème, c'est qu'elle est absolument imprécise et elle mêle dans une même catégorie des gens qui, des forces politiques qui n'ont pas du tout les mêmes orientations. La deuxième chose, c'est que elle a pour effet, si vous voulez, de dédouaner les gouvernements néolibéraux des politiques autoritaires et xénophobes qu'ils ont menées depuis des décennies, en faisant reposer en quelque sorte sur les populistes. Le danger vis-à-vis de la démocratie, le danger autoritaire, le danger raciste, etc., en disant ce sont les populistes qui portent ce danger autoritaire, qui portent ce danger raciste, et derrière les forces populistes, ce sont les peuples, parce que le peuple, vous savez, les classes au sens là ici des classes populaires, eh bien c'est un les classes populaires dans l'esprit des élites, c'est toujours un enfant qu'il faut guider, etc. Bon, eh bien le peuple, eh bien il est prompt à des délires autoritaires, à des délires racistes, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut le d'ailleurs le guider d'une main parfois de fer. C'est vraiment typiquement le discours de Macron. Hein. Vous êtes contre la réforme des retraites, c'est parce qu'on n'a pas fait assez de pédagogie, on vous a pas bien expliqué, mais on va vous expliquer et puis vous serez pour. Bon. Donc ça c'est une vision très élitiste du peuple. Mais voilà, dans la catégorie de populisme, il y a une mise en accusation du peuple qui serait responsable en quelque sorte de la montée de l'autoritarisme, de la montée du racisme, etc. Et ce que je disais, c'est implicitement, c'est que ça dédouane les gouvernements de ce qu'ils ont fait. Bon, une grande partie du racisme qui s'est développé dans le champ politique a été un racisme qui n'a pas été en soi une réponse à une demande populaire massive de racisme en quelque sorte, ou de politique raciste, mais quelque chose qui a été produit en bonne partie par en haut. À partir des années 80, avec des discours répétés contre les immigrés, contre les musulmans, contre les Roms. Je pourrais égrener les exemples, hein. Même dans la dernière séquence, même dans un gouvernement qui prétendait appartenir à la gauche, Hollande-Valls, hein, il y a eu des discours de Valls contre les Roms, contre les migrants. Valls, d'ailleurs, se félicitant d'expulser plus que la droite. Il y a eu la proposition de déchéance de nationalité, qui était quand même quelque chose qui était uniquement défendu auparavant par l'extrême droite, défendu par un gouvernement prétendument donc de gauche sous Hollande-Valls. Bon, voilà. Donc ça a pour fonction de faire oublier en quelque sorte que ceux et celles qui ont mené des politiques qui aboutissent à une dérive autoritaire du pouvoir politique aujourd'hui, ce sont Hollande-Valls, Sarkozy auparavant, Macron aujourd'hui, et pas les populistes en eux-mêmes, qui par ailleurs, ou ceux qu'on appelle populistes, par ailleurs qui représentent effectivement un danger pour la démocratie du fait du type de projet qu'ils portent. Voilà, et dernier point peut-être, et je suis un peu long là-dessus, mais la catégorie de populisme appliquée à l'extrême droite, notamment au FN, a contribué à la dédiabolisation du FN. Auparavant, le FN était qualifié, pour moi légitimement, de fasciste ou de néo-fasciste, au sens où, ne serait-ce que d'un point de vue généalogique, le FN a été créé par les fascistes français. En 72, il est créé par... Le FN, c'est d'abord un projet de Ordre Nouveau, qui est un groupuscule qui ne cachait pas qu'il était un groupuscule néo-fasciste. Et l'idée au départ, qui du coup ne date pas du tout de Marine Le Pen, c'est de créer une vitrine électorale pour les idées d'extrême droite qui ont été marginalisées en gros après la Seconde Guerre mondiale pour des raisons qu'on comprend très bien, hein, que les fascismes avaient poussé à la guerre et donc ça avait eu toutes les conséquences dramatiques que ça avait eu, etc. Donc les fascistes au début des années 70 de Ordre Nouveau se disent il nous faut pour sortir de la marginalité, il nous faut un nouvel instrument, une nouvelle organisation, et ça va donner le Front National qui va être créé par à peu près toutes les chapelles du fascisme français, pas toutes presque, hein. Et donc pendant deux décennies tout le monde qualifiait en général, notamment à gauche, le FN de fasciste. Ça ne faisait pas un pli. Et donc, quand on a commencé à les qualifier de populistes, c'était très confortable pour le FN. C'est, d'un seul coup, on ne les qualifiait plus de fascistes, ce qui est quand même beaucoup plus lourd à porter comme étiquette. D'ailleurs, Marine Le Pen fait des procès quand on la qualifie de fasciste. Bon, elle a perdu son procès, d'ailleurs, là-dessus, contre Mélenchon, qu'il avait qualifié de fasciste il y a quelques années. Et par ailleurs, c'est très confortable comme accusation, l'accusation de populisme. Vous pouvez facilement la retourner. Vous pouvez dire, oui, vous nous accusez d'être populistes, mais c'est précisément parce que nous sommes du côté du peuple et que vous n'aimez pas le peuple. Surtout de la part de gens qui effectivement mènent des politiques contre les classes populaires. Donc c'est très facile de retourner ce stigmate du populisme de la part du FN. Donc c'est une aubaine, ça a été une aubaine, ce changement de catégorisation, hein, ce passage du fascisme au populisme pour parler de l'extrême droite, c'est une aubaine pour l'extrême droite. Hein, dans sa stratégie de respectabilisation, c'était parfait.
C'était Ugo Paglietta, sociologue, auteur de La possibilité du fascisme, France, la trajectoire du désastre. Il était invité la semaine dernière dans nos studios. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien ainsi que cette émission sur microrebelle.fr.